Bonjour, je me permets tout d'abord. Ça marche pas, ça? Ça doit marcher? Oui, je crois que c'est bon. Donc, je me permets peut-être tout d'abord de rappeler rapidement ce que sont les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, parce que je ne suis pas bien sûre que tout le monde le sache. Et puis, je pense qu'il y a aussi sans doute dans la salle des enseignants qui ne sont pas censés non plus connaître ces structures-là. Et comme ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, je crois que c'est important de préciser d'où l'on parle. Donc les centres régionaux de formation carrière des bibliothèques ont pour mission la formation continue des personnels des bibliothèques. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'on s'adresse aussi bien au personnel des bibliothèques de lecture publique qu'au personnel des bibliothèques des universités. Ça c'est important parce qu'on a donc une vision globale du métier. Par ailleurs, nous sommes rattachés à des universités, nous vivons donc au sein d'universités et nous utilisons donc largement aussi les ressources des universités, en particulier les savoirs et les compétences des enseignants chercheurs. Et comme nous sommes un centre de formation professionnelle, nous faisons aussi très largement intervenir dans nos formations et même majoritairement des professionnels des bibliothèques. Donc ce double regard à la fois des professionnels et des enseignants-chercheurs dans nos formations. Alors, notre mission première au départ, c'est plutôt la formation continue des personnels des bibliothèques des universités, dont un des grands enjeux actuels est la formation des usagers. Donc, c'est pas neutre par rapport à notre thème d'aujourd'hui, mais aussi l'élargissement des heures d'ouverture. On a beaucoup parlé des lieux, de bibliothèques troisième lieu, de learning center, de thème à la mode, c'est les ID store des BU. Mais ces lieux, il faut bien qu'ils soient ouverts de temps en temps. Donc la grande question aussi, c'est la question des heures d'ouverture. Et puis, et surtout peut-être, l'intégration de l'action de la bibliothèque dans les problèmes pédagogiques. C'était le thème de la journée d'études du congrès de l'Association des directeurs de bibliothèques universitaires qui s'est tenue il y a 15 jours. Donc pour vous dire aussi que cette problématique du rôle pédagogique de la bibliothèque et donc inévitablement du lien avec l'enseignement, c'est quelque chose qui est un thème très très important actuellement pour les bibliothèques des universités. Alors, ça c'est pour vous replacer un petit peu, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé des bibliothèques universitaires. Pourtant, là, elles sont en plein dans la question de la collaboration. Nous travaillons aussi beaucoup en direction des bibliothèques des collectivités territoriales, par convention avec le ministère de la Culture via les directions régionales des affaires culturelles. Média Aquitaine, donc le centre que je dirige qui se trouve à Bordeaux, et l'un des centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques les plus subventionnés par une DRAC, parce que justement nous nous efforçons d'accompagner la politique de développement de la lecture et des bibliothèques que mène la DRAC, en essayant de faire en sorte de faire des propositions des propositions de formation qui nous semblent utiles aux bibliothécaires pour pouvoir mettre en œuvre ces projets que le ministère de la Culture soutient par des subventions. Alors je pense par exemple au schéma numérique des bibliothèques, là qui est le grand thème actuel, qu'on essaie d'accompagner en formation. C'est aussi un programme dont on a beaucoup parlé, toutes les questions, et ça Christophe Séné en a largement parlé ce matin, toutes les questions d'éducation artistique. Là aussi, s'il y a des aides aux bibliothèques pour mettre en œuvre ce type de programme, ça veut dire aussi qu'il faut former les bibliothécaires à les mettre en œuvre, parce que ça se fait rarement tout seul. Donc nous travaillons dans ce sens-là avec plutôt avec le ministère de la Culture. Et puis, bien sûr, quand il s'agit des collectes de formation des bibliothécaires territoriaux, nous travaillons aussi très largement avec le CNFPT. Mais alors là, malheureusement, c'est dans un cadre administratif qui est beaucoup plus contraint, puisque nous répondons à leurs appels d'offres. Nous sommes donc en quelque sorte considérés comme des sous-traitants du CNFPT, ce qui fait que, en tant que prestataire, on a beaucoup moins de marge de manœuvre pour faire des propositions, parce qu'évidemment, ce n'est pas nous qui faisons les appels d'offres, ce n'est pas nous qui bâtissons les cahiers des charges, on y répond. Donc du coup, c'est un petit peu difficile de proposer des formations prospectives. Alors c'est comme ça qu'on fait à l'appel, par exemple, des formations accueil des classes, et là, on est un petit peu comme nos collègues des bibliothèques municipales, on a un petit peu marre de faire des formations là-dessus, d'abord les bibliothécaires savent faire, enfin, ou alors, alors on essaie d'introduire des choses un peu différentes, bon, accueillir les classes, oui, d'accord, mais pourquoi faire, comment, etc. Voilà. Un travail avec le CNFPT, mais c'est important aussi parce que c'est l'offre principale, c'est celle qui est subventionnée, hein, puisque les collectivités cotisent hein, pour un pourcentage de la masse salariale. Donc c'est un moyen aussi de subventionner la formation continue. On y reviendra sur ces questions de financement pour ce qui est de la formation continue des enseignants côté éducation nationale, où là, il y a aussi de gros soucis de ce point de vue-là, parce que ces actions de formation, faut bien les financer à un moment donné ou à un autre. Donc cette présentation un petit peu rapide pour vous dire que donc nous avons une vision globale du métier de bibliothécaire et que pour nous la lecture des jeunes ça va vraiment de la maternelle à l'université et qu'on tient compte de ça dans nos formations. Donc le sujet que je dois traiter aujourd'hui, ben, c'est d'essayer de montrer, à travers l'exemple des formations que Média Aquitaine peut mettre en place, comment la formation peut être un facilitateur pour une meilleure collaboration ou pour une refondation de la collaboration entre les bibliothèques et l'éducation nationale. Parce qu'il faut bien le dire, les deux professions entretiennent des relations ambiguës. Enseignants et bibliothécaires, même s'ils s'adressent en partie au même public et sont institutionnellement liés. Là, je reprends ce qu'indiquait l'introduction du programme de cette journée l'étude, ont quand même longtemps entretenu des relations conflictuelles. L'introduction du colloque d'il y a 10 ans, donc, qui avait pour titre « Regard croisé sur les coopérations » et auquel la journée d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, a l'ambition de faire écho et de faire le point hein, de ce qui s'est passé depuis 10 ans, faisait d'ailleurs état de ces relations compliqué. Alors, la première chose, mais déjà Caroline Rive l'a dit un petit peu, c'est de rappeler peut-être que le métier de bibliothécaire s'est construit en partie contre l'école. L'un des pères fondateurs de la lecture publique, donc Caroline Rive a cité tout à l'heure aussi, hein, c'est forcément les mêmes, Eugène Morel, qui était la phrase que je vais vous citer était citée par Anne-Marie Chartier, dont elle a d'ailleurs également parlé. Et alors donc Eugène Morel disait que la bibliothèque est la seule école neutre. Elle est le moyen qui n'interpose pas entre la connaissance et le disciple un cicérone qui impose sa déformation personnelle. Et Anne-Marie Chartier, donc, puisqu'elle le citait, rajoute très gentiment pour les bibliothécaires que c'est quand même une affirmation un petit peu difficile à soutenir devant un enseignant. Donc bon, alors après je vous l'accorde quand même, Eugène Morel, ça fait un moment qu'il disait ça, hein, c'était en 1900, je sais pas, au début des années 20, donc du siècle passé. Donc entre-temps, évidemment, beaucoup de choses ont changé, et dans l'école et dans les bibliothèques. Bon, Caroline Rive nous l'a expliqué. Et puis, bon, c'est vrai aussi que la conception de la lecture à l'école a considérablement évolué. Et la lecture de loisirs, la fameuse lecture plaisir, défendue au départ par les seuls bibliothécaires, qui donc en sont revenus, comme elle nous le disait, a quand même aussi pris place à l'école. Donc ensuite, il faut dire aussi que aussi bien les bibliothécaires, donc avec la création du CAFB et ce qui allait devenir son option jeunesse, alors c'était 1951, moi j'ai vérifié, je ne me rappelais plus non plus. Voilà. Bon, alors apparemment, voilà. Enfin, début des années 50. Donc ça fait quand même un bon moment. Et il faut dire aussi que les enseignants sont également formés à la littérature de jeunesse, qui figure maintenant donc à part entière dans les programmes scolaires. Je ne crois pas que ça a été abandonné, même s'il y a eu cette histoire de liste là qui est un peu... Bon. Il en reste pas moins que la littérature de jeunesse est aujourd'hui, d'une part, enseignée dans les universités, dans les cursus de littérature. Il y a même des masters qui sont entièrement dédié à ça. Le plus ancien est sans doute celui de l'Université du Mans, mais il y en a dans d'autres universités, dont la nôtre d'ailleurs. Et puis, on retrouve aussi ces enseignements sur la littérature de jeunesse et sur les pratiques de lecture des jeunes, largement également dans les enseignements des IUFM. Ça, je crois qu'il faut quand même le souligner. Ce n'est pas l'apanage des bibliothécaires. Les enseignants sont aussi formés à la littérature de jeunesse. Alors peut-être sous une forme d'ailleurs différente de celle qui peut être proposée aux bibliothécaires, moins sur l'édition, plus dans l'analyse littéraire par exemple. Mais ce sont tout à fait des formations. Il faut savoir, enfin, faut que les bibliothécaires sachent aussi que quand ils montent des projets de collaboration avec les enseignants, ils ont en face d'eux des gens qui connaissent la littérature de jeunesse, je crois de plus en plus. Là, il y a vraiment une évolution. Et pourtant, malgré ces évolutions majeures, il me semble que l'incompréhension demeure. Les enseignants ont tendance à reprocher aux bibliothécaires de ne pas comprendre les enjeux pédagogiques de la maîtrise de la lecture et de sa pratique régulière. Les bibliothécaires reprochent aux enseignants d'instrumentaliser la lecture et parfois même d'instrumentaliser les bibliothécaires eux-mêmes. Delphine Quéreux, c'est né en Sbaille, pardon. J'ai fait une agglomération. Donc, je fais des mariages. On disait que les bibliothèques, c'est des lieux de drague, alors on ne sait jamais. Bon, a évoqué donc ces difficultés dans des termes peut-être un peu plus diplomates, mais c'est vrai que ces difficultés existent aussi. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec les jeunes et la lecture? On ne cherche peut-être pas tout à fait à faire la même chose et dans les bibliothèques et à l'école. Et puis, il me semble aussi qu'il y a une question qu'il faut soulever également, c'est que les bibliothécaires ont toujours du mal à assumer la mission éducative de la bibliothèque. Pourtant, le ministère de la Culture nous l'a rappelé, le rappelle, soutient cette mission que Christophe Séné nous l'a dit. Parmi les 14 propositions pour le développement de la lecture, il y a cet aspect de éducatif, ce rôle que joue aussi la bibliothèque. C'est une des missions qui est mentionnée dans le manifeste de l'UNESCO, pour la bibliothèque publique, que tous les bibliothèques ont lu, enfin au moins au moment de leur formation, ça j'en suis sûre, on les y oblige. Donc ce manifeste, il précise que les missions des bibliothèques relatives à l'information, l'alphabétisation, l'éducation et la culture se déclinent en plusieurs missions. Et la deuxième mission qui est citée, c'est celle qui consiste à soutenir l'auto-formation et l'enseignement conventionnel à tous les niveaux. Donc c'est quand même aussi très clair que c'est bien une mission de la bibliothèque. Et puis, aujourd'hui, où on note un regain d'intérêt pour les collections et leur contenu, c'est certainement lié d'ailleurs aux évolutions apportées par la documentation électronique qui facilite à la fois l'accès au contenu et rend en même temps sa qualité plus difficile à évaluer. Donc on s'intéresse plus à cela, et là aussi on touche à nouveau au rôle éducatif de la bibliothèque, au rôle, à la mission d'éducation de la bibliothèque. On veut aussi développer de plus en plus dans les bibliothèques les outils d'auto-formation. Ça reste souvent malheureusement des déclarations d'intention, mais il y a quand même des projets dans ces domaines-là. Eh bien, malgré tout ça, il me semble que le rôle éducatif de la bibliothèque n'est pas complètement intégré par les bibliothécaires. En témoigne d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, les relations complexes des bibliothèques de lecture publique avec le public étudiant. Je reviendrai là-dessus parce que ça correspond aussi à un échec de l'une de nos formations, donc ça m'interpelle vraiment. Ça, c'est pour ce qui est du côté des bibliothécaires. Si on regarde du côté de l'éducation nationale, on s'aperçoit aussi que tout n'est pas toujours très facile. L'accès direct au texte dans l'enseignement français reste encore problématique. Alors, malgré les efforts considérables qui ont été réalisés en français ces 40 dernières années, l'enseignement dans notre pays, comme dans la plupart des pays latins, reste quand même plus centré sur le cours magistral que dans les pays du nord de l'Europe. Dans ces pays, on donne beaucoup plus facilement accès à du texte intégral et les cours sont souvent distribués aux élèves sous forme écrite ou maintenant sous forme électronique avant la rencontre avec l'enseignant. Rencontre qui peut alors être essentiellement consacrée à un temps de véritable échange. Et cette question finalement de la façon de voir l'enseignement, de la façon des méthodes pédagogiques, n'est pas sans conséquence sur le rapport au livre et par là même aux bibliothèques que les jeunes entretiennent. Caroline Rive l'a évoqué aussi quand elle parlait là, déjà à propos de la création de l'heure joyeuse de la méthode dite séminaire. Bon, c'est ça, méthode dite séminaire, c'est aussi des pédagogies plus actives. Alors bien sûr, je sais que l'école a énormément développer tout cela, mais malgré tout, plus dans les pays de tradition catholique aussi que dans les pays de tradition protestante, ce rapport au texte fait que y a toujours une médiation et voilà, et donc la bibliothèque est plutôt du côté de la liberté de lire et rencontre des difficultés, voilà. Donc c'est en me rendant compte de tout cela, et puis également de l'enjeu que représente le partenariat bibliothèque-école et pour les uns et pour les autres. Alors bon, là c'est pas la peine que je revienne dessus, on en a largement parlé de tous les dispositifs qui peuvent être mis en place aussi bien par le ministère de la Culture avec les programmes d'éducation artistique, que tout ce qui se passe du côté des délégations académiques à l'éducation artistique et culturelle. Bon là je ne sais plus quel était son nom, la personne qui était absente là, c'est Nicolas Montaigne, c'est un délégué académique à l'éducation artistique et culturelle. Donc il y a quand même une forte incitation à collaborer. Et on le voit, des difficultés, des freins. Alors c'est en constatant tout cela que je me suis dit que la formation pouvait peut-être contribuer à faire évoluer les choses en essayant. C'est pas évident, de faire une place dans les cursus des uns aux problématiques qui intéressent les autres. Donc on s'est donc efforcé de favoriser l'interconnaissance entre ces deux univers, celui de l'école et de la bibliothèque, qui sont en même temps si proches et si différents. Et pour cela, on a mis sur place des formations que je pourrais qualifier de croisées, là, comme vous disiez. Alors, tout d'abord, il s'est agi pour nous de faire en sorte que les bibliothécaires connaissent et comprennent les contraintes pédagogiques des enseignants et qu'ils mesurent les enjeux que représente pour eux la lecture. Alors bon, on n'a pas fait pour autant des choses très, très extraordinaires, mais Par exemple, on a introduit dans le diplôme d'université que l'on organise sur la littérature de jeunesse en bibliothèque-médiathèque, des enseignements sur les programmes de l'école et du collège en français et en littérature de jeunesse. On a introduit des enseignements sur l'apprentissage de la lecture aussi. On essaie de faire une part assez large à la présentation de tous les lieux ressources et de tous les partenaires potentiels. Et puis, on fait en sorte aussi qu'il y ait dans cette formation des comptes rendus d'expérience qui quasiment tous portent sur des actions partenariales entre bibliothèques et écoles. Alors, ces enseignements, ils sont de l'IUFM. C'est pas par des bibliothécaires, par des formateurs de l'IUFM, par des professeurs du secondaire, par des conseillers pédagogiques. Alors, il ne s'agit pas pour nous du tout de transformer les bibliothécaires en professeurs de littérature ou de faire en sorte qu'ils sachent apprendre à lire aux enfants. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner des notions sur ce que font les enseignants, de leur permettre de comprendre leurs préoccupations et de se repérer aussi dans le fonctionnement de l'éducation nationale. Là aussi, ce matin, Delphine Kerosba, il disait les difficultés qu'il y a parfois à repérer les bons interlocuteurs. Donc ça, je pense que c'est important qu'interviennent dans les formations des formateurs qui viennent de l'éducation nationale. Et puis, bien sûr, nous appliquons cette même logique aussi à nos formations continues. On fait intervenir un psychologue spécialiste du développement de l'enfant dans les stages accueil des tout-petits, des enseignants du secondaire dans les stages accueil des adolescents. Et puis, on s'appuie aussi sur des enseignements de sociologues qui expliquent l'influence de l'école, alors pris au sens large, sur les pratiques culturelles des enfants et des jeunes. Le rapport à l'école étant particulièrement déterminant pour ce qui concerne les pratiques de lecture. Parce que c'est vrai ce qui était dit... On se dit, bon, on va arrêter d'accueillir les classes parce que les jeunes nous identifient trop à l'école. Bon, ça ne suffira pas, je pense, ils continueront quand même à nous identifier à l'école. Mais c'est intéressant de savoir quel mécanisme il y a derrière, qu'est-ce qui fait que les adolescents décrochent à peu près au niveau 5e de la lecture et que même ceux qu'on avait réussi à fidéliser, de toute façon, ne viennent plus. Alors, il y a des tas de causes là-dessus. Mais il y a en particulier le rapport à l'école. Donc pour ça, on utilise bien sûr les travaux d'Olivier Donna sur les pratiques culturelles des Français, mais aussi ceux de Christine Détresse, qui est une maître de conférence de sociologie qui est à l'ENS de Lyon, ce que vous connaissez certainement, qui a en particulier publié il y a déjà plusieurs années, a participé à la publication de « Et pourtant, ils lisent », donc a fait date aussi. On travaille avec plusieurs sociologues, avec Marie-Angela Rosselli aussi, qui est à côté de chez nous, qui est à Toulouse, qui a fait beaucoup d'enquêtes dans les bibliothèques. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a fait des enquêtes à la fois dans les bibliothèques municipales et dans les bibliothèques universitaires aussi. Donc on s'efforce d'apporter tous ces éclairages dans nos formations, malgré cela, ça ne va pas parfois sans difficulté. Alors je vous le disais tout à l'heure, nous tentons actuellement de mettre sur pied une formation qui est intitulée « Accueillir des lycéens et des étudiants en bibliothèque municipale ». Alors nous avons été fortement incités, bien sûr, à mettre en place cette formation par la DRAC Aquitaine. Et il nous semblait que ça rencontrait vraiment un réel besoin. Là, je suis tout à fait d'accord avec Caroline Rive pour dire que c'est un des enjeux actuels, la lecture des lycéens et des étudiants. D'ailleurs, l'étude à laquelle elle faisait allusion, je pense que c'est celle qu'a réalisée Myriam Ville, non ?
Oui.
Si c'est il y a 2 ans, je pense que c'est...
C'est de... adressé à des étudiants qui fréquentaient la bibliothèque universitaire pour savoir s'ils fréquentaient d'autres bibliothèques sur l'agglomération.
Voilà.
Et ce qu'ils attendaient des différents établissements.
Voilà, c'est une jeune conservatrice, parce qu'on l'a préparée au concours de conservateur, et qui avait une formation initiale en sociologie, et qui a réalisé donc cette enquête dans le cadre du service commun de la documentation de la bibliothèque universitaire de l'Université de Bordeaux 3, qui est l'Université de lettres et de sciences humaines. Donc elle a fait une étude assez intéressante là-dessus, qu'on peut retrouver, je crois, en ligne sur le site du SCD de Bordeaux 3, et qu'on peut aussi, qu'elle a résumé aussi dans un article qui est paru dans le BBF, il me semble de mémoire que ça doit être le BBF numéro 5 de 2010, hein, parce que c'est intéressant. Bon, il y en a d'autres études, hein, sur la lecture étudiante, mais là, ce qui était bien, c'est que c'était centré sur les circulations entre les différentes bibliothèques des étudiants. Bon, je me dépêche. Donc nous avons essayé de mettre en place cette formation. Alors on a adopté la même démarche que pour les autres, en nous assurant de la collaboration de conseillers d'orientation qui ont présenté les programmes des lycées et des universités. Parce que alors là, les besoins en documentation sont très différents d'une discipline à l'autre au niveau universitaire, mais enfin au niveau lycée aussi. Hein. Nous étions aussi assurés de la présence d'un professeur documentaliste de lycée et d'un bibliothécaire exerçant dans une bibliothèque de premier cycle pour qu'ils puissent confronter leur politique documentaire. Malgré tout ça, pas d'inscrits. Personne qui s'intéresse à ça. Donc là, on est en train d'essayer de revoir notre programme. On a discuté aussi avec une nouvelle collègue qui est arrivée à Médiaquitaine cette année et qui est une ex-bibliothécaire jeunesse. On lui a dit, mais pourquoi ça ne marche pas, cette formation ? Il nous semble avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Alors, elle nous a dit que d'abord, il ne fallait peut-être pas considérer que les bibliothécaires qui sont confrontés à l'envahissement des espaces par les jeunes au moment des examens partent de rien et ne connaissent pas ces publics. Que c'était peut-être un peu une injonction là, d'intituler ça « accueillez, allez-y, accueillez les lycéens » alors qu'ils ne savent déjà plus quoi en faire et où les mettre. Elle nous a dit aussi qu'on devrait essayer de s'appuyer sur leur expérience. Non seulement pour aider à mieux accueillir, mais aussi à canaliser finalement, à savoir quoi faire de ce public qui est bien présent, mais est-ce que sa présence dans les locaux est vraiment efficace en matière de réussite scolaire, par exemple. Là, je crois qu'on touche aussi un point qui est important, qui est celui de la formation des usagers, qui est banal en bibliothèque universitaire, qui s'est même développé beaucoup à la Bibliothèque nationale, mais qui pénètre encore très très peu les bibliothèques municipales. Moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est que finalement, les ateliers de recherche documentaire ou de recherche d'information ou la culture l'initiation à la culture informationnelle, là qui est un grand débat dans les CDI, les bibliothèques municipales, elle n'en parle pas. C'est une activité beaucoup moins proposée, il ne faut pas exagérer, il y en a qui le font, qui est moins proposée que les lectures à voix haute, par exemple. Donc là, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire aussi en matière de partage d'expérience, essayer de voir ce qui peut se faire d'innovant. Là, tout à l'heure, dans la salle, il y a des personnes qui ont évoqué ce qui pouvait être fait au moment de la préparation du bac, que ce soit à Fresnes ou ailleurs. Nous, on avait choisi plutôt l'exemple de Bilbao. Ben, finalement, Bilbao, c'est plus près de chez nous que Fresnes, mais aussi où ils sont très réactifs et où ils font en sorte de... pendant un mois, la bibliothèque appartient aux étudiants au moment de la préparation des examens. Puis après, on le met dehors et puis on fait autre chose. C'est une solution aussi. Donc là, vous dire ce qu'on essaie de faire un petit peu pour les bibliothécaires. Du côté de la formation des enseignants, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je vais en prendre un peu trop de temps. C'est toujours pareil, j'ai pourtant l'habitude, mais je déborde toujours. Bon, je me dépêche. Donc, du côté de la formation des enseignants, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en contrepartie de nos formations aux enseignants, nous avons été amenés aussi à participer de notre invitation d'enseignants dans les formations des bibliothécaires. Nous avons aussi été amenés à participer, nous, centre de formation pour les bibliothécaires, à la formation des enseignants. Et c'est ainsi que des formateurs de Médiaquitaine interviennent dans le master MEF. Alors, je ne me rappelle plus quel est le sigle, c'est les nouveaux masters qu'ont mis en place les IUFM, métiers de l'enseignement et de la formation, quelque chose comme ça. Et nous enseignons aussi bien dans l'option littérature de jeunesse de la formation pour les futurs professeurs des écoles, dans l'option qui concerne les futurs professeurs documentalistes, auxquels nous présentons le réseau de lecture publique et son fonctionnement. Mais surtout, en dehors de ces interventions croisées dans les formations des uns et des autres, nous avons toujours, en partenariat avec l'IUFM, mis en place des formations mixtes qui sont ouvertes aux deux types de publics afin de susciter des rencontres et puis, si affinité, de développer des collaborations. C'est Christine Péclard qui disait que c'était à la suite de journées d'études, finalement, qu'elle était entrée en contact et qu'elle avait mis en place des projets avec des documentalistes. Donc ça, je crois que c'est très important. Alors, nous essayons chaque année d'organiser au moins une formation commune aux enseignants du secondaire et aux bibliothécaires. Et puis, deux journées d'études. Bon, ça ne va pas très très loin. Hein, Mais c'est trois actions de formation par an. Le stage de formation continue est à la fois inscrit au PAF, au plan académique de formation, et au catalogue des formations financées par la DRAC que nous proposons aux bibliothèques territoriales. Et puis alors là, ça peut porter sur des thèmes très variés, éducation artistique et art contemporain, évidemment. Développement de fonds en langue étrangère pour les jeunes, ça intéresse aussi bien les CDI que les BM. Enfin bon, ça, je ne vais pas vous faire tout le détail de notre catalogue. Mais malheureusement, avec la réduction des formations pour les enseignants et les difficultés que rencontrent aujourd'hui les IUFM, les crédits des PAF ont été redéployés. Donc il y a de moins en moins de possibilités de financer ces formations. Non seulement de les financer, mais parce qu'encore nous on peut y arriver, si c'est des actions qui sont quand même modestes, donc ça, on arrive toujours à trouver le moyen de financer la formation elle-même, mais les déplacements des enseignants, leur remplacement sur leur poste, parce qu'encore les professeurs documentalistes, ils peuvent éventuellement fermer le CDI si leur chef d'établissement est très motivé pour qu'ils aillent se former, mais les enseignants de discipline, c'est plus compliqué. Et donc là, je suis assez inquiète parce que je ne sais pas trop si on va pouvoir continuer à faire ça. Pourtant, le moyen quand même que les enseignants puissent venir dans des formations communes avec les bibliothécaires, c'était bien de l'inscrire au plan académique de formation. Bon, alors par contre, on réussit quand même à continuer à programmer au moins deux journées d'études communes. Là, si c'est sur une journée, c'est un petit peu plus facile. On fait circuler l'information via les inspecteurs, de façon à toucher les enseignants. Et là, on en fait une plutôt sur la littérature de jeunesse. Alors là, ça peut être aussi sur des thèmes très variés, écrire pour les adultes, écrire pour les enfants, la question des genres dans la littérature de jeunesse. Ça, c'est une formation qui a lieu aujourd'hui, une journée d'études qui a lieu aujourd'hui même à Bordeaux. On fait aussi, traditionnellement, une journée qui porte plus sur la formation à l'information et qui donc concerne plutôt les professeurs documentalistes. Donc là, on a pu avoir, par exemple, une des dernières formations qu'on a organisées, c'était former les usagers du CDI à la bibliothèque universitaire. Et on avait eu une très intéressante intervention sur les copier-coller. Alors ça, c'est que les documentalistes et les bibliothécaires qualifient de plagiat, alors que pour les jeunes, il s'agit peut-être, hein, bon, je ne m'avance pas, il faudrait lire les résultats de la recherche en question, mais il s'agit plutôt d'inventer une nouvelle forme de prise de notes, finalement. Enfin, que pour eux, c'est peut-être un moyen aussi d'intégrer des connaissances, ces copier-coller. Donc vous voyez, on peut avoir aussi de par le fait que ces journées soient liées à des activités de recherche, et là notre ancrage universitaire c'est important, on arrive à montrer à travers ces journées aux professionnels des bibliothèques et aux enseignants l'intérêt qu'il peut y avoir pour eux à s'informer et à débattre en commun sur les derniers travaux de recherche dans les domaines qui les intéressent. Ça, je crois que c'est intéressant aussi de lier toujours et encore la recherche et la formation. Donc je crois que j'ai dépassé un petit peu. Alors voilà, pour conclure, je ne peux pas vraiment vous dire si toutes ces formations favorisent objectivement un développement de partenariat entre écoles et bibliothèques, parce que comme pour toute formation, ça a été dit aussi, et pour la formation, c'est vrai également, et pour la formation des adultes comme pour celle des jeunes. Ce n'est qu'à long terme, bien sûr, qu'on pourra évaluer l'impact. Mais ce que je peux dire, c'est que quand même en Aquitaine, il y a vraiment un réseau de personnes qui s'intéressent à la littérature de jeunesse, et qu'il est très actif. Et que je pense que c'est en occupant notre place au sein de ce réseau qui rassemble bien d'autres gens que nous, hein, la DRAC, le rectorat, l'IUFM, aussi pour une large part l'Agence régionale pour le livre, ECLA, qui est très 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 active aussi dans ce domaine-là. Ben, on espère quand même un peu contribuer à tout ce dynamisme et faire un petit peu avancer les choses. Voilà.